des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Here comes Huston! Here comes Huston! C'est Red Cashin.
Vous êtes sur la zone payante à Cube Radio. Jean-Nicolas Gagnant en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. C'est notre premier essai de notre match cette semaine. Jean, on va aborder un sujet qu'on dirait que c'est récurrent, évidemment. Là, c'est la fin de la saison. On commence un peu les bilans de la saison régulière. Et là, le joueur le plus utile à son équipe fait déjà là, l'objet de toutes sortes de spéculations. La plupart des gens voient seulement deux candidats, Aaron Rodgers et Tom Brady. Est-ce que d'après toi, c'est serré entre les deux? Et est-ce que Aaron Rodgers, ses comportements là, un peu erratiques, peuvent lui nuire là, auprès de certains journalistes pour le vote de joueur le plus utile à son équipe?
Ben honnêtement, j'aurais jamais pensé ça. Puis oui, Aaron Rodgers, il a fait un move de brochet cette année là, avec son statut vaccinal qui était pas clair, puis j'en tournera pas là-dedans. Puis ça, évidemment, on fait référence au journaliste Hob Arkush du c'est un insider de la NFL. Il travaille.
Est-ce que c'est un journaliste qui dit tout haut ce que plusieurs journalistes pensent tout bas?
Ben, il faut se poser la question, mais honnêtement, tu sais, parce que lui, il l'a traité, il a dit Aaron Rodgers, pardonnez-moi les mots, mais c'est un trou de cul. Puis il a parlé un peu de son statut, puis il a dit que c'était pas une bonne personne, puis il allait pas voter pour lui. Mais pour moi, un vote de la MVP pour c'est un vote extrêmement important. Puis tu peux pas avoir d'agenda personnel. Selon moi, le journaliste en question devrait se faire retirer son droit de vote. Je trouve ça inacceptable comme commentaire. Puis aucun agenda politique devrait faire partie du vote. Maintenant, est-ce que c'est possible que Rodgers le remporte pas en raison de ça? Ben, j'osais croire que non, mais peut-être que oui, peut-être qu'il y a d'autres journalistes qui pensent ça. Je suis pas dans la tête des journalistes, donc qui votent, évidemment. Mais moi, j'aimerais croire qu'une course au joueur le plus utile, ça se décide avec les performances qui ont eu lieu sur le terrain et non en dehors du terrain.
Bon, mais parlons-en des performances sur le terrain. Est-ce que d'après toi, il y a quelqu'un qui est proche d'Aaron Rodgers pour remporter ses honneurs?
Ouais, ben évidemment, c'est Tom Brady. Puis là, faut faire référence à la course au MVP. C'est pas compliqué. Depuis l'an 2000, il y a seulement à 4 reprises qu'il y a eu d'autres joueurs qu'un carrière. Ça a toujours été des porteurs de ballon. Dans l'histoire de la NFL, il y a juste 3 joueurs qui ont remporté le MVP qui sont pas soit des carrières ou des porteurs de ballon. Étrangement, il y a un batteur là-dedans, les gars. Mark Mosley, batteur de précision, 1982. Lawrence Taylor, en 86, qui était secondaire extérieur, évidemment. Puis le plaqueur défensif des Vikings, Alan Page, en 1971. Donc, ça fait vraiment quand même très longtemps. Dans les candidats, je le mentionne parce que pour moi, c'est peut-être le troisième candidat, c'est Cooper Kupp. Cooper Kupp, il y a eu une saison extraordinaire. Je pense qu'il se doit, pour moi, d'être dans la liste des candidats. Jonathan Taylor aussi, mais pour moi, il n'y a pas de chance. Première des choses, il n'a pas atteint le 2000 verges. Il a une super saison, une saison vraiment, vraiment solide avec les Colts, mais ils n'ont pas fait les séries. Il n'a pas réussi à traîner le club complètement sur ses épaules pour les amener à la terre promise. Ben, pour ça, je pense qu'il va être écarté là, vraiment, puis je pense pas qu'il va avoir de vote.
C'était quasiment notre choix il y a un mois. Moi, c'est mon choix il y a un mois, mais la fin de saison en queue de poisson des Colts, c'est ça. Puis on en parlait, on disait si on votait maintenant, mais entre maintenant puis 4 matchs plus tard, il y a des choses qui changent.
Mais dans le cas de Cooper Kupp, ben écoute, il a ramassé les trois statistiques couronne. Les plus importantes, la triple couronne du côté des receveurs. Il y a juste 3 joueurs dans l'histoire qui l'ont fait, Rice, Sharp et Smith. Il est venu très, très proche du record de Calvin Johnson pour le nombre de verges 1964. Il y a une saison exceptionnelle, une des meilleures saisons comme receveur que tu peux avoir dans l'histoire de la NFL. Donc pour moi, il est dans les candidats, Est-ce qu'il va avoir assez de votes pour surpasser Brady ou Rodgers, qui sont pour moi les deux autres candidats sérieux? C'est plate, là. J'ai comme l'impression que ça sera pas le cas. Ça va se décider entre Aaron Rodgers et Tom Brady. Puis là, il faut que tu choisisses ton poison. Dans le cas de Rodgers, ben il a lancé moins, mais écoute, c'est lui qui a le meilleur QBR, donc le QB rating de la NFL. Il a fini à 68.8. C'est vraiment, vraiment très solide. Brady, 68.5, donc il suit tout près. Dans le cas de Rodgers, c'est son efficacité, son ratio de toucher interception, meilleur de l'histoire, 37 touchés, 4 interceptions. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Mais du côté de Brady, il a fini avec le plus de touchés, 43. C'est celui qui a le plus de verges. Puis c'est là aussi qui, pour moi, c'est quand même majeur, là. Il y a 1200 verges de plus que Aaron Rodgers, 5316 verges aériennes contre 4115. Ils ont la même fiche également, même si Rodgers a terminé là, le premier de la conférence. Les Bucks, tu sais, ils sont tout prêts.
13-4 aussi.
Donc, ça va se décider vraiment, ça va être très, très serré, selon moi, entre les deux.
Est-ce que Joe Burrow va recevoir un vote ou deux?
C'est possible qu'il brouille un peu des quatre. Il y a vraiment une bonne saison. T'sais, une saison... lui, il est top 10 dans la majeure partie des statistiques importantes. Sauf, il y a beaucoup d'interceptions. 14 pour 34 touchés. Pour moi, c'est un petit peu trop. Donc, ça devrait l'écarter normalement. Mais peut-être qu'il peut avoir un ou deux votes qui pourraient changer peut-être l'allure, effectivement. Okay.
Sur Rodgers, Brady, tu sais, il y a les chiffres, comme tu as mentionné, Jean, c'est sûr. Brady a, somme toute, des chiffres encore plus impressionnants. Sauf que l'esprit du joueur le plus utile, je pense que ça devrait pas être juste le reflet de statistiques. Rodgers, tu regardes ça, là, par rapport à 2020, il a joué avec la moitié de sa ligne offensive là, de l'an passé. Le centre est parti avec les Chargers. Bakhtiari a été blessé toute l'année. Elgton Jenkins, qui est un excellent garde slash bloqueur parce qu'il peut jouer les deux positions très bien, a été blessé une bonne partie de l'année aussi. Il regarde à qui il lance le ballon. On pense souvent à Davante Adams, mais en dehors de ça, je trouve que les Bucks ont beaucoup plus de munitions que ce que Aaron Rodgers a à sa disposition. Ça aussi, ça doit jouer, moi, je pense, dans le vote. Puis, c'est intéressant parce que je lisais la chronique du lundi de Peter King cette semaine, puis il a fait un sondage maison auprès de, je pense, c'est 36 journalistes qui sont pas appelés à voter. Là. C'est pas ceux qui font partie du processus de vote. Puis il a parlé aussi à des exécutifs là, à travers la NFL. Je pense que c'est 36 personnes. Puis Aaron Rodgers gagnait vraiment là, haut la main. C'était pas unanime. Mais c'était vraiment là de façon très, très, très évidente dans son sondage maison. Donc, j'ai hâte de voir si ça va se refléter lors du vote réel.
Je vais juste mentionner deux, trois petites choses. Par contre, dans le cas de Tom Brady, il n'a pas compté sur la même défense que celle des Packers. Les Packers, cette année, ont été très solides défensivement. Les Bucks, ils ont eu vraiment des hauts et des bas. Puis je pense que les Bucks ont tiré de l'arrière plus souvent. Donc, Brady a été, je pense qu'il a eu à faire un peu plus que Rodgers de ce côté-là. Mais c'est sûr que moi, mon vote, il va à Aaron Rodgers. Et n'en déplaise à Bruce Arians, qui lui, évidemment, a pris la défense de son carrière.
C'est de bonne guerre, là.
Oui, ouais, c'est de bonne guerre. Lui, il a dit que ça serait une honte si Tom Brady ne remportait pas la course.
Ouais. Mais l'entraîneur des Jets, lui, n'a pas proposé Mike White, par exemple.
C'est ça qui est ça, mais il y a l'entraîneur des Giants, Fur Joe Judge, aussi, qui aurait pu...
C'est vrai, Mike Glennon.
Mike Glennon, mais écoute, je pense que ça sera pour une prochaine saison.
Deuxième essai, Steph, la saison régulière étant terminée, on a toujours un œil sur nos joueurs québécois, qu'est-ce qu'ils font? On en a plusieurs maintenant dans la NFL, on n'en parle pas toutes les semaines évidemment, mais je pense que là c'est le temps de faire un bilan. qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été pour nos joueurs québécois, c'était ou canadiens ou québécois?
Ça n'a pas été une saison évidente. Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, on connaît sa situation. Il a été d'abord avec les Chiefs. Il a fait l'équipe, mais il n'y avait pas de place sur l'alignement régulier. On se souvient qu'à chaque match, il n'était pas en uniforme. Tout ça amenait un échange aux Jets de New York. Puis, avec les Jets, ça s'est bien passé. Très bien même. Il a été en uniforme pour 8 matchs, dont 7. Les 7 derniers, il a été partant avec les Jets. Puis il y a une statistique que j'ai trouvée intéressante. Ça explique pas tout. C'est pas pour dire que Laurent a tout changé à lui seul. Mais écoute, avant son arrivée, les Jets couraient pour 3,6 verges par course. Depuis son premier départ à la semaine 11, les Jets ont maintenu une moyenne de 5,4 verges par course. Tu sais, je pense qu'il a vraiment aidé parce que Greg Van Roten, qui était là avant lui, c'était pas un garde nécessairement qualifié pour être partant. C'était vraiment le gros problème de la ligne à l'attaque des Jets. Donc, est-ce que ça va amener une nouvelle offre de contrat pour Laurent? Parce qu'il tombe agent libre au mois de mars, ça va être une situation à surveiller. Il y a aussi, lui, sa situation médicale, parce qu'il en a parlé cette semaine en conférence de presse avec les médias new-yorkais. Il dit « Moi, je ne sais pas pour l'instant comment je vais pouvoir m'arranger. Il y a ma résidence en médecine qu'il faut que je complète à un moment donné. Il y a toutes sortes de trucs comme ça à valider auprès de sa faculté. » Donc, ça reste à suivre. Anthony Auclair, vraiment, il a fait tout ce qu'il pouvait, une excellente saison du côté des Texans. Il a disputé 16 des 17 matchs. Puis le match qu'il n'a pas joué, mais c'est pas parce qu'il était pas dans les plans de l'équipe, c'est parce qu'il y a eu la COVID. Il a inscrit son premier touché en carrière, on s'en souvient, un super beau moment. Même si c'est pas sa job, on en parlait là, quand il l'a eu son touché. Il est pas payé pour ça, Anthony, mais quand même, c'est un moment marquant dans une carrière. Cette année, il y a eu 5 réceptions pour 47 verges, 2 premiers jeux, mais surtout, il a été utilisé sur à peu près 30% des jeux offensifs des Texans. À ses meilleures années à Tampa, là, c'était pas mal son taux d'utilisation. Puis, le troisième Québécois qui a joué pas mal...
Pour finir sur Anthony, ouais, est-ce que lui est sous contrat pour l'an prochain?
Agent libre aussi, il avait signé un contrat d'un an, comme à peu près 50 joueurs des Texans. il était beaucoup dans cette situation-là, mais quand tu regardes ça, il avait été sur l'équipe de réserve, on l'a tout de suite promu sur l'alignement régulier, il est resté là toute l'année, il est en uniforme. C'est quand même des signes encourageants là, quant à une éventuelle prolongation de contrat. Tu sais, s'il avait été en uniforme pour, je sais pas moi, 5-6 matchs, on pourrait se poser de sérieuses questions. Là, j'ai l'impression que le personnel des Texans a aimé ce qu'il a donné. Ça va être à surveiller, ça aussi. L'autre, c'est Benjamin Saint-Just, demi de coin de Washington. Ça avait bien débuté pour lui. Il jouait de façon assez régulière. 9 matchs au compteur.
Dans le camp d'entraînement, il y avait vraiment un buzz. Là.
Il a connu un extraordinaire camp d'entraînement, si bien qu'il a joué tout de suite avec les partants, lui, dès la première semaine. Mais malheureusement, 2 commotions cérébrales. Ça a été très difficile. Donc, ça l'a tenu à l'écart pendant la moitié de la saison. Il a pas joué de la fin de l'année. Il termine avec 26 plaqués, 3 passes rabattues. Donc, il a pris un bon bagage d'expérience. Puis il dit qu'il a eu l'appui là, de son entraîneur-chef, Ron Rivera, dans le processus de guérison des commotions. Parce qu'à un moment donné, il était down pas mal. Il dit « J'étais chez nous, dans le noir, j'arrivais à rien faire. » Mais il dit « Mon cerveau tournait tellement parce que je stressais de revenir au jeu. Il a fallu que mon entraîneur vienne me calmer un peu pour me dire que ça arrivait puis qu'il n'y avait pas de problème.
Wow. »
Ça m'a aidé dans le processus. Donc, je tenais à le souligner parce que tu sais, il y a des entraîneurs qui auraient mis la pression à un moment donné. Là. Donc, c'est ça qui en est là, pour nos 3 Québécois qui ont joué beaucoup, là.
Ron Rivera, c'est un ancien joueur aussi. Hein.
Il comprend la game.
Exact. Je pense que des fois, c'est positif de ce côté-là. J'imagine que pour rassurer un joueur, il comprend un peu là, à quoi il peut penser puis passer à travers un excellent entraîneur. Ron
fait Rivera. Que lui, c'est sûr qu'il reste à Washington, écoute un choix de 3e ronde, puis l'équipe l'a bien apprécié. Là, fait que lui, il va poursuivre là-bas l'an prochain, ça c'est sûr et certain. Puis les 2 autres qui vont être à surveiller, Pierre-Olivier Lestage avec les Seahawks, lui, a été toute l'année comme prévu sur l'équipe de réserve. Il n'y a pas de surprise là. Puis J.J. Molson, le batteur des Packers, même chose. Est-ce qu'ils vont être ramenés sur l'équipe de réserve de leur équipe? Est-ce que on va passer à autre chose? C'est ce qu'il va falloir voir dans les prochains mois.
Parce qu'on a 5 Québécois quand même dans la NFL. C'est quand même bon.
Actuellement, on en est là. Dans les prochaines années, il y aura des candidats potentiels. Je pense à un Matthew Bergeron à Syracuse, un bloqueur qui a connu d'excellents moments, là, honnêtement, cette saison. Ça, c'est. Il va disputer sa prochaine saison à Syracuse. Il aurait pu se rendre admissible au repêchage, mais je pense qu'il a pris la bonne décision. T'sais, il va gagner une autre année. Il va être à son meilleur normalement l'an prochain. Là, donc, à surveiller, pas pour ce repêchage-ci, mais le suivant.
OK, allons-y maintenant avec notre troisième essai. Le sujet qui est récurrent aussi dans la semaine qui suit la fin de la saison régulière, le départ des entraîneurs ou des directeurs gérants. Il y en a qui prennent leur retraite.
Ouais, des retraites, disons que ça fait bien, ça.
Je sais pas par quel bout le prendre. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il y a 7 postes vacants, entre guillemets, dans la NFL, là, si on inclut les Raiders et qui sont en série, qui vont peut-être garder leur entraîneur par intérim. Mais quelle équipe offre le plus beau, la plus belle destination là, parmi les équipes? Là? D'abord, Steph, fais-nous un retour sur les équipes qui n'ont pas de coach. Et ensuite, on discutera un peu des équipes qui sont disponibles.
Ben, les équipes qui n'ont pas de coach, Jacksonville depuis un certain moment déjà, avec tout le fiasco Urban Meyer. Même chose du côté des Raiders avec John Gruden. Mais là, il y a Rich Bisaccia qui amène son équipe en série. S'il gagne un match éliminatoire, ça va être dur de le tasser, honnêtement. Ensuite, tu as les Broncos de Denver, Vic Fangio qui a perdu son poste. Les Dolphins avec Brian Flores, ça a été probablement la plus grosse surprise dans ce cycle-là. On l'a pas nécessairement vu venir. Joe Judge avec les Giants, après moult délibérations, là, il semblait lundi que ça s'en allait dans la bonne direction, qu'on allait le ramener. Les Giants ont finalement eu un changement de ton là-dessus. Et puis, 2 candidats auxquels on s'attendait pas mal, là, les Vikings avec Mike Zimmer et les Bears avec Matt Nagy. Ça faisait depuis quoi? Oui. Depuis pas mal le début de la saison, il était sur un siège éjectable. Là, à moins de connaître une grosse campagne, ça n'a pas été le cas.
Et leurs directeurs gérants sont partis aussi avec eux dans les deux cas.
Ouais, même chose aussi chez les Giants. Dave Gettleman, le vieux de la vieille, qui a accroché ses épaulettes, disons-le comme ça. Mais je pense que c'est une retraite polie dans son cas, là, parce que ça faisait plus du tout.
OK, maintenant, regardons là, quelles histoires émergent autour de ces congédiements. Puis quelle équipe qui est en meilleure position pour accueillir un choix? Là, j'ai plusieurs questions. D'abord, en effet, là, quelle équipe, d'après vous, qui est la plus intéressante pour un entraîneur? Mais quelle... Tu sais, souvent, il y a une espèce de nouveau gourou là, que tout le monde s'arrache. Il y a Jim Harbaugh, mais y en a-tu vraiment un là, cette année que tout le monde va aller chercher pour entraîner l'équipe?
Ben, c'est sûr que la...
Du côté des gourous, là, comme tu le mentionnes, il n'y a pas un candidat par-dessus l'autre. Il y a plusieurs candidats qu'on entend les noms là, qui reviennent. Je pense à Nathaniel Hackett, coordonnateur offensif des Packers. Lui, il doit être à la veille d'avoir à peu près 10 entrevues. Là. D'autres candidats, on se rabat beaucoup sur des candidats offensifs. Là. Je pense exact. À Brian Daboll, le coordonnateur offensif des Bills. Eric Bieniemy, qui est encore dans les discussions, coordonnateur offensif des Chiefs. Rappelez-vous, ça fait 2-3 ans déjà là, que son nom circule. Puis un nom qu'il faudrait peut-être surveiller, qu'on entend de plus en plus, le bras droit de Kyle Shanahan à San Francisco, qui est coordonnateur de son jeu au sol, Mike McDaniel.
Qui a l'air d'un gars qui aurait pu être sur l'avion de Sunwing.
Ben, il était à Yale avant. Je pense qu'il était dans un Ivy League.
Mais il a quand même l'air occupé avec M. Shanahan par les temps qui courent.
Mais c'est un jeune qui a du style.
C'est vraiment son bras droit là, au sens où c'est son homme de confiance. Il va y confier tout le plan de match offensif. Puis on sait à quel point c'est important la course à San Francisco. Donc, il y a beaucoup de monde qui le regarde d'un bon œil là, justement à cause de ça. Puis un candidat aussi que tout le monde commence à vouloir évaluer, c'est Byron Leftwich, ancien corps arrière et maintenant coordonnateur des Bucks avec Tom Brady. C'est un candidat intéressant. Il faut toujours se demander, est-ce que c'est lui le boss là-bas ou c'est Tom Brady? Là, t'sais, il y a toujours ça, mais honnêtement, ça fait quelques années aussi que son nom circule. Là, du côté défensif, il y en a quelques-uns. Je pense à Todd Bowles, justement, qui pourrait avoir une deuxième chance. Lui aussi est à Tampa, coordonnateur défensif. Il y en a d'autres. Matt Eberflus, le coordonnateur défensif des Colts, qui est un nom qui ressort souvent.
Coordonnateur défensif
donc,
des Cowboys également.
Il y a pas un candidat dans le lot, là. C'est pas l'année d'un tel que tout le monde s'arrache. Mais il y a des candidats quand même qui reviennent beaucoup dans les discussions.
En tout cas, Byron Leftwich, on l'a vu en fin de semaine. Quand Tom Brady, la partie était gagnée et qu'il aurait dû rester sur le banc, Tom Brady, il a regardé Byron Leftwich, il a dit « Qu'est-ce que je fais, Byron? Est-ce que tu me permets d'embarquer ce jeu pour finir les incentives de Rob Gronkowski ou je peux rester sur le banc? » La décision était vraiment pas dans les mains de Tom Brady pour savoir s'il retournait sur le jeu ou pas.
Ouais. Non, oui, c'est ça.
Non, oui. Il est là. On se demande à quoi ça sert d'avoir un coach à Tampa Bay quand Tom Brady dit ouvertement « Personne me met sur le banc, je m'en vais sur le jeu. »
Quand tu regardes quel endroit est le meilleur, je pense qu'il y a vraiment du pour et du contre un peu partout. Là. Avec les Raiders, ça reste que c'est peut-être l'alignement 1. C'est le seul endroit où ce qu'il y a une équipe qui fait les séries. Donc, en partant, ils n'ont pas possiblement la meilleure équipe présentement. Parce que c'est elle qui est la plus radieuse. Ben, ils ont au moins un carrière qui est établi. Les autres, c'est souvent là que c'est problématique. Dans le cas des Dolphins, faut le mentionner aussi, hein, c'est pas la fiche de Flores qui a fait en sorte qu'il a été mis dehors. Ça, il devient un peu... C'est le seul qui est vraiment dans cette situation-là. Ils ont rien à y reprocher au niveau X et O, au niveau stratégique. C'est pas ça. Ils l'ont mis dehors en raison des relations personnelles qu'il y avait avec soit le reste des autres entraîneurs, tout simplement les membres de la direction. La vérité, pour moi, j'ai l'impression que c'était un power struggle, désolé de l'anglicisme, là, mais une lutte entre lui et le directeur gérant, surtout sur le fait que Flores, lui, aurait repêché Justin Herbert, tandis que le directeur gérant, son boy, ben c'était Tua. Tagovailoa. Depuis ce temps-là, ça a l'air que la relation entre les deux, ben le torchon brûlait beaucoup. Évidemment, c'est le directeur gérant qui a le gros bout du bâton, donc il aurait peut-être pris la décision. Flores, pour moi, est un candidat quand même qui devrait être considéré ailleurs. Il va être selon... Vas-y, Steph.
Les Bears l'ont déjà demandé en entrevue. Je sais pas pour les autres équipes, ça va venir dans les prochaines heures, prochains jours, mais il y a déjà une entrevue de ça à table.
Donc ça donne je pense une très bonne idée de sa réputation. Par contre, ça demeure intéressant parce que ça montre aussi que maintenant dans la NFL, ben il y a des dirigeants qui pensent aussi que la façon que tu traites les autres c'est important. Puis je dis pas que c'est
surtout avec des milléniaux.
Oui, effectivement. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu nouveau là, j'ai pas vu ça souvent dans la NFL. C'est simplement tes résultats et tes performances sur le terrain qui comptent. Donc est-ce que ça va amener une nouvelle vague d'entraîneurs-chefs? Écoute, je le sais pas, mais je sais que c'est un aspect que moi je trouve quand même intéressant. Je trouve quand même que c'est pas un bon congédiement pour les Dolphins. J'aurais gardé Flores. Je pense que c'est un excellent entraîneur-chef. Puis j'ose croire que c'est pas si pire que ça ce qu'on dépeint dans les médias. Ben ce que la direction de Miami veut bien laisser entendre, qui était un peu tyrannesque comme entraîneur-chef, que tout le monde marchait sur des œufs autour de lui. Pas certain que c'est si pire que ça. Là.
OK. Bon, ben les gars, on va suivre ça parce qu'on va en parler dans les prochaines semaines, là, les entraîneurs qui vont changer de place. Ça va être un sujet intéressant.
Une petite note rapide aussi. Les Giants, j'ai trouvé ça horrible. Jojo, j'aurais dû être congédié pour moi le lundi. Ça aurait dû être le premier quasiment qui aurait été congédié. Pourquoi l'avoir laissé parler à son équipe puis dire qu'il allait revenir? puis prendre la décision un peu plus tard. Tu vois que ça va comme c'est mené avec les Giants. C'est tout croche depuis des années. Ça va faire du bien. C'est la bonne décision en bout de ligne, mais c'est une organisation. Pour moi, c'est la pire présentement. Manning
Clown Show.
C'est la troisième fois de suite que les Giants mettent dehors leur entraîneur au bout de deux ans. Il va falloir que ça change, là. C'est ça qu'ils ont fait hésiter. Ils se disent, on veut pas que ça devienne des portes tournantes, sauf que là, il y avait clairement pas le bon candidat.
Puis il y a tellement de points d'interrogation également autour de l'équipe. Tu sais, Daniel Jones, c'est-tu un vrai carrière de la NFL? C'est-tu ton carrière franchise? Qu'est-ce que tu fais avec Saquon? La ligne en attaque, offensivement, c'est horrible. Je veux dire,
ils ont été chercher un receveur numéro un, apparemment, en Kenny Golladay, 4 ans, 72 millions, aucun touché.
Ouais.
C'est ça. Puis,
ça fait mal.
Dans les bons endroits, je pense quand même que les Jaguars est un bon endroit parce que tu as un excellent talent comme jeune carrière, même s'il y a eu une première saison horrible.
Merci, messieurs. On va revenir ensuite avec les questions des auditeurs. Plusieurs bonnes questions cette semaine. Restez là, on en parle après la pause.